11h01, salut! Bon matin, bienvenue sur les ondes du boulevard 101. Vous êtes dans l'open mic avec Audrey Pinchot. L'open mic, c'est quoi? On vous laisse la place bien en masse dans les discussions, les amis. 418-971-1021 par texto. Vous avez quelque chose à nous dire? Ça vous tente de participer à nos discussions? Vous avez des histoires peu banales à nous raconter? Ben, on est là pour vous écouter, puis on est là aussi pour en jaser. Gros show aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va bouleverser certaines personnes.
Ah, moi, j'adore ça. Honnêtement, ça fait une couple de jours qu'on parle de cette émission-là. On va parler de comportement humain plus tard, puis je veux pas brûler de punch, fait qu'on va s'en rejaser. Mais on est hypocrite parfois comme humain.
Ah,
on va le dire comme ça.
J'aime ça.
Oui, on est hypocrite.
Tu pensais-tu qu'on allait aller là, toi, puis moi, à un moment donné?
J'espérais, je vais te dire. Moi, j'ai pas beaucoup de barrières, pour être bien honnête.
Parce que c'est parti d'un de mes innombrables refus de ma part.
Oui.
Puis là, toi, t'as dit pourquoi?
Ouais, non, mais moi, si tu refuses, il faut une justification.
Oui, ça, c'est tannant.
Non, mais regarde.
Parce que des fois, nous autres, les gars, ben moi, en fait, je parlerai pas pour la majorité des gars, mais des fois, on refuse sans aucune raison. C'est juste que ça nous tente pas.
Oui, mais c'est parce que c'est pas parce que ça te tente pas que ça plaît pas aux autres,
mais
nécessairement.
C'est pas parce que je dis que ça me tente pas.
Qu'il faut que ça s'arrête là.
Que c'est ça réellement.
Oui, c'est difficile. T'es pire qu'une fille.
Des fois, il y a une réflexion qui est très, très poussée, hein, les gars, derrière, quand on dit non, non, ça ne me tente pas. Mais après ça, je t'ai expliqué le pourquoi du comment. Puis là, on a trouvé une twist pour l'émission d'aujourd'hui. Vous ne serez pas prêts. Vous allez peut-être vous reconnaître ou vous allez peut-être reconnaître des gens de votre entourage. Vous allez peut-être être un peu déçus de la société.
Non, mais ça va amener des réflexions.
Oui, mais le mandat que j'ai, moi, c'est d'être le méchant de l'émission. Puis, je vais vous faire voir des choses des fois que vous ne voyez pas chez les êtres humains. Ça peut être méchant.
Le terre à terre.
Ouais,
le gars plate. T'es pète de bulle,
oui. Oui, pète de bulle.
Oui, parce que j'ai mes lunettes roses, t'as tes lunettes un peu noires.
Pendant 16 ans que la mère de mes enfants, j'ai pété sa bulle.
Oui, mais en même temps, il y a du bon de temps en temps. Il faut que tu trouves la balance. Moi, tu vois, je trouve qu'on a une réflexion qui est super intéressante dans ce qu'on va apporter aujourd'hui.
Ouais, tu sais, toi, t'es un peu du style à la mère de mes gars, là. C'est comme la vie est belle, le soleil est bleu, il y a des nuages, il y a des oiseaux, tout
oui,
est beau.
Oui, mais tu sais, t'en as juste une vie. Hein,
la paix dans le monde.
Casse pas ta tête, là.
Ouais,
c'est
j'ai
ça.
Toujours rêvé d'être comme vous autres.
Ah ouais, hein? Ouais, mais non, c'est difficile. Tu veux pas être comme ça.
Puis après ça, quand je jase avec des gens comme vous autres, qui sont des gens que j'aurais voulu être, puis je leur dis comme, ouais, il y a peut-être une autre vision qu'on peut explorer. Des fois, je vous fais descendre.
Ben, c'est parce que
la ballonne qui se promène, qui est heureuse. Hein, c'est vrai.
Ouais.
On n'avait pas constaté ça. Puis on va appuyer ça avec un docteur en psychologie qui va venir nous jaser tantôt.
Ça va être écœurant. Si vous avez des affaires à dire par rapport à ce qu'on va vous présenter, 418-971-1021, on est très flou. Vous allez voir, ça va se concrétiser.
Ouais.
Donc, le 971-1021, c'est le texto. Il y a le téléphone qui est toujours ouvert pour nous appeler, hein, le 418-780-1021. Twitch aussi. Vous voulez regarder les dessous de la radio? Il y a des caméras partout ici, là. Fait que vous allez sur le twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM.
Exact. Hey, on l'a échappé belle un matin. Je ne sais pas si vous étiez dans le secteur Le Bourgneuf, si Reg en a parlé dans la dernière heure. Mais si vous voulez, si vous venez de vous joindre à nous, c'est arrivé quelque chose un matin directement en bas de la bâtisse où nous, on est. C'est important de vous dire que le bas de la bâtisse, il y a une garderie qui est là,
ouais,
avec peut-être une centaine d'enfants. C'est un beau jardin d'enfants qu'on a en bas. Puis les parents sont constamment à venir porter leurs enfants. Puis moi, je les croise tout le temps, les parents. Puis je vois les enfants qui sont dans la vide puis qui nous font des babayes. Fait qu'on fait des babayes. Ils ne sont pas vieux. Il
n'y
a pas d'enfants ben de 5 ans.
Mais c'est une garderie à deux sections. Tu as les poupons puis tu as les 18 mois et plus jusqu'à à la maternelle, finalement, donc jusqu'à 4 et demi.
Donc, moi, je vois les poupons.
Probablement que tu vois les plus jeunes, effectivement.
Ils sont tout le temps mini, puis ils sont tout le temps dans la fenêtre. Puis là, ben moi, je passe tout le temps par le derrière de la station, parce que le stationnement est à cet endroit-là. Puis là, je vois les pompiers. Je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe, ta barouette, tu sais? Puis là, je m'approche, et là, tout d'un coup, je vois qu'il y a un véhicule qui est exactement dans la vitre où les enfants font des babas.
Oui, qui a traversé.
La personne, c'est une personne d'autour, moi je l'ai vu, la personne, c'est autour de 70 ans à peu près. Heureusement, elle n'a pas été blessée, mais elle est rentrée dans vite, dans la fenêtre, en fait, où les enfants sont. Fait que c'est juste le petit bas de la fenêtre qui a fait en sorte qu'elle n'est pas rentrée dans la garderie.
Oui, parce que la fenêtre, c'est ça, descend pas jusqu'en bas. Il y a un petit bout là, de béton, si on veut, là, de briques, là, qui fait que ça a donné une chance. Mais...
il y a des poutres, là. Elle a passé entre les poutres pour se rendre jusque-là. Puis quand j'ai tourné le coin, je me suis fait... C'est clair qu'il y a des morts.
On vous a mis l'image sur le Facebook de Boulevard en passant, juste parce que c'est impressionnant. Puis, tu sais, c'est quand même tranquille. Le parking est grand au complexe, le Bourgneuf, là, tu sais.
Ouais.
Il ne se passe pas des accidents dans le parking tous les jours. Mais j'ai une pensée. Un, ça aurait pu être tragique. Je me permets de dire ça parce que tout s'est bien déroulé. Au final, tout le monde est en sécurité. Ça va. Petite blessure de ce que j'ai compris, là, au cou pour la dame.
Oui, quand j'ai passé, elle était en train de se tâter le cou. Puis, je parlais avec un policier qui disait. Techniquement, le véhicule s'est emballé selon elle, mais ouais. Normalement, après enquête, là, ce qu'on voit, des résultats du moins, c'est tout le temps que la personne s'est trompée de pédale.
Oui, puis malheureusement, ça arrive plus souvent qu'on pense quand les gens deviennent un peu plus âgés. De là, le fait de repasser un permis maintenant.
Sauf qu'à 70 ans, t'es pas si âgé que ça.
Il y a des gens maganés, Yann.
Moi, je pense qu'il y a des médicaments au travers de ça.
Ça se peut, la fatigue.
Ouais, la fatigue.
Mais j'ai pitié de cette dame-là. Puis c'est encore là, je le dis parce que tout au final est correct, mais elle doit tellement être mal en ce moment, puis elle doit s'imaginer tout ce que ça aurait pu être. Petit traumatisme assuré pour cette dame-là, là. Pour vrai. Là.
Moi, je ne rentrais pas travailler. J'aurais été fessé à matin de voir ce véhicule à l'intérieur de la garderie. J'étais arrivé quelques secondes après les pompiers, puis je regardais ça, puis j'hallucinais juste de voir ce qui aurait pu arriver.
Oh, hein?
Ça implique les enfants. T'sais, on est un peu plus sensible envers les enfants. Là.
C'est bien sûr. Donc, les voit tous les jours en plus.
J'ai jasé avec le policier, il me parlait de lutte un peu d'ailleurs aussi, en me disant que ça allait pas être beau, mon combat contre Stephen Sullivan.
T'as-tu commencé à bouger un peu, là, à t'entraîner? Là,
non. Je vais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire d'aller au gym avec Gabardi, au Tonic Gym. Lever de la fonte. Là, j'ai commencé à regarder des vieilles vidéos de lutte qui sont disponibles sur YouTube avec Hulk Hogan.
As-tu réalisé que c'est pas juste une question de force puis de lever un poids ou pas encore?
Mais je t'en fonce. Tu sais, au niveau cardiaque, je suis correct et tout ça. Fait que je devrais m'en tirer, mais mettons que vous vous dites, hey, ça vaut-tu vraiment le coup du spectacle, là, le combat de Marceau contre Sullivan? Je peux vous dire que oui, mais la carte avant nous autres, elle va être exceptionnelle. Tu sais, moi, j'ai vu les gars évoluer au Stade Canac, puis je m'attendais pas. Les gars et les filles, en passant, les filles sont aussi bonnes que les gars. Je m'attendais pas à d'aussi grandes performances, puis ça va être à peu près le même type de performance qu'on va avoir au Centre Horizon le 27 septembre prochain. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com.
Oui, puis il faut dire que la gang de Boulevard va être là au complet, puis l'élément intéressant sur lequel j'ai goût qu'on martèle, c'est le fait que ce gars-là, au-delà d'être soit ta victoire ou ta volée, Yann, c'est pour la bouchée généreuse. 100% des billets qui vont être vendus, puis moi, ça, je trouve ça tellement hot, puis ça enlève rien aux autres événements, mais des fois, ça va être 50% des profits qui vont aller, mettons, à la cause, là, 100% des billets qui sont vendus puis sont pas chers, là, s'en vont directement à la bouchée généreuse après l'événement. Fait que c'est un gars-là qui va être trippant, se battre pour la fin, carrément.
Puis là, j'ai un stress, parce que là, il y a des chums qui m'ont écrit, des vieux auditeurs aussi, qui sont là avec moi depuis des années, qui me disent « Yann, j'ai acheté les VIP ». Les VIP, là, c'est carrément sur le bord de la clôture. Et là, je vais m'arranger pour prendre la tête à Sullivan puis aller faire des babayes sur la clôture.
Tu vas te faire maganer, Yann.
Pour que les gens qui ont payé cet argent-là puissent en avoir pour leur argent. Mais cela dit, c'était un aparté pour ce qui est de la NSPW. Très hâte de faire ce gala-là. Mais cette dame-là, je sais pas comment elle va s'en remettre. Puis je sais pas si... Ils ont-tu retiré le véhicule, là?
Ben là, je suis avec toi, là, fait que je sais pas exactement au moment où on se parle, mais je sais que ça a comme pris du temps parce que les collègues qui montaient tantôt nous disaient « La dame est encore assise comme dans le véhicule, elle est bien traumatisée, puis le temps qu'il fasse tout le périmètre, là, puis qu'on prenne ce qui s'est passé. »
Si cette personne-là, c'est ta mère?
Ouh, mon doux Seigneur.
Tu lui laisses-tu reprendre son véhicule dans 2 semaines?
Ah, ben la première chose que je fais, premièrement, après discussion, je pense qu'il faut que tu repasses ton permis. Là. Il y a comme un... Moi, dans ma tête, le moment... Puis en même temps, on dit ça, Yann, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça t'est jamais arrivé de te tromper de pédale, en toute franchise?
Non.
Tu peux bien rire de moi, là, mais je veux dire...
Non. Ce qui peut m'arriver, c'est que je suis tellement tout le temps en conduite manuelle que lorsque je prends la voiture à ma blonde qui est automatique, des fois, je cherche la troisième pédale pour la clutch.
Okay.
Mais je me suis jamais trompé entre le frein puis l'accélérateur. Rassure-moi, Audrey, tu ne t'es jamais trompé non plus.
Ça, c'est arrivé une seule fois quand j'ai appris à conduire manuel parce que je cherchais au bout de mon pied pour la troisième pédale.
Tu t'es dit un des trois.
Ça va peser. Puis j'étais vraiment dans un environnement sécuritaire, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que je laisse le bénéfice du doute. Parce que c'est facile de juger dans ce temps-là. Hein. Et que c'est facile, mon Dieu, d'être gérant d'estrade. Mais je laisse le bénéfice du doute que c'était vraiment une erreur, peut-être vieillesse, fatigue, médicaments, t'as tout nommé ça. Moi, si c'est ma mère, c'est sûr qu'il y a des discussions. À 70 ans, on dirait que je trouve ça dur.
Très jeune.
Ben, c'est parce que tu peux pas dire à ta mère, tu prendras plus jamais ton auto.
Tu veux encore ton indépendance. Ben... Pourquoi je te pose la question? C'est qu'il y a des médecins qui font face à cette décision-là de retirer ou non le permis de conduire de leur patient. Puis, dans certains cas, surtout en région plus éloignée, moi, j'ai connu ça plus en Beauce, là, quelqu'un qui reste dans les rangs en région éloignée, qui est seul. Sa femme est décédée depuis 5-10 ans. Les enfants sont partis de la maison, puis ils vont peut-être voir leur père une fois par semaine ou une fois ou deux semaines. Cette personne-là, si tu enlèves son véhicule, tu enlèves son indépendance.
Bien, c'est malheureux aussi, mais c'est comme une vieillesse prématurée parce que ces gens-là, après ça, qui ne peuvent plus se déplacer, qui ne peuvent plus faire du social, justement. C'est niaiseux, mais tu pratiques le cerveau, là. Tu sais, tes discussions quotidiennes, le fait de bouger, de te déplacer.
Donc là, le médecin, il est partagé. Hein? Est-ce que si je lui laisse son permis de conduire, je risque la vie de d'autres personnes? Ou si je lui enlève son permis de conduire, je vais le faire mourir?
Oui. Ah non, c'est vraiment déchire-cœur. En passant, Pascal nous dit qu'elle est allée en bas se prendre un petit café à l'éco-café, puis le véhicule n'est plus présent. Là, fait que ça a été ramassé. Ça s'est quand même passé aux alentours de 8 et quart à matin. Là, fait que...
Par texto au 418-971-1021, effectivement, c'est une décision difficile, mais combien nécessaire. Il y a quelques années, j'ai accompagné mon père, 88 ans à l'époque, à la SAC pour qu'il redonne son permis. Mais ça doit être, je sais pas pour les
humiliant.
Filles, mais pour un gars, moi je l'ai eu à 16 ans, là, c'était une fierté d'avoir mon permis de conduire. C'était une indépendance que je venais d'acquérir qui faisait en sorte que j'avais plus besoin du reste de la planète.
Oui, mais c'est pas genré comme sentiment, ça. Là. Je veux dire, même chose pour moi, tu m'enlèves mon véhicule demain matin, même si on a le meilleur système de transport en commun. Demain matin, 8 heures, je refuse de laisser aller mon véhicule.
Ça serait peut-être plus sécuritaire pour la société.
Va chez le bonhomme. Mais c'est humiliant. Tu sais, imagine, là, je trouve ça tellement triste parce que tu passes ta vie, tu sais, à te défoncer pour ta job, à te défoncer pour ta famille, à essayer de mettre tout en place, avoir la plus belle vie possible. Puis à un certain point, tu finis quand même avec une perte d'autonomie, tu sais, une perte d'indépendance. Je trouve ça, là, oh mon Dieu, je ne souhaite pas ça. J'espère que mes parents arrêtent de conduire par eux-mêmes avant qu'on doive se rendre à aller leur retirer leur permis.
Mais j'arrêterai pas de conduire.
Mais Yann, si même à toi, t'es dangereux.
Ils vont être obligés de me retirer mon permis.
Même si tu sais que t'es dangereux sur la route, que tu vois à moitié rien, que t'es confus, que tu garderais ton permis.
Si tu me dis ça, à 40 ans, dans quarantaine, là, je te dis, c'est sûr que je retire mon permis. Mais faut que je sois honnête avec toi. J'ai pas le choix.
Tu voudrais le garder.
À 90 ans... C'est tout ce qui me reste de fierté.
Oui, mais on va t'acheter une mobilette, on va t'acheter un quadriporteur.
C'est facile pour une fille, une jeune femme de 30 ans.
Non,
au début,
sans blague, je comprends.
C'est facile pour un gars de 40 ans de dire « Ah non, moi, je vais être responsable, je vais être mieux que tout le monde. »
Mais on ne l'est pas, on est
Je vais me débarrasser de mon indépendance. Exactement.
Non, on est tellement
Je vais me débarrasser de mon indépendance. La réalité, c'est qu'à 80 ans, 90 ans, quand il est très juste, ton permis de conduire, les enfants ont quitté la maison, ils viennent te voir aux deux semaines, tu n'as plus de femme. T'as plus de mari, aller faire ton épicerie, c'est ton seul truc social qui te reste, t'essaies de le garder, tu sais. C'est ça, la réalité. Puis arrêtez de me dire, ah, c'est irresponsable de penser de même. Non, c'est parce que là, à l'âge que vous avez, c'est responsable de le faire. Mais quand vous avez 90 ans...
Que t'es tout seul.
N'oublions pas qu'on revient un peu à un stade peut-être un peu plus primaire, là, au niveau du deuxième étage.
Tu sais, je regarde, il y a une dame dans Charlebourg qui a 107 ans en ce moment. 107 ans. Je sais pas toi, mais moi, je vais être morte à 107 ans. Là.
Et moi, j'aimerais ça vivre 107 ans.
107 ans, juste pour dire que tu as atteint ça. Parce qu'imagine, 107 ans, tu as probablement perdu ta blonde. Tes enfants vieillissent aussi. Ça, c'est, si la vie est belle, tu es encore avec toi. Mais je veux dire, il y en a qui ont passé 100 ans. Leurs enfants, la maladie les a déjà emportés. Tu sais, il y en a qui meurent jeunes, malheureusement. J'ai comme l'impression que, je sais pas, moi, 107 ans, ça serait vraiment pas... Arc, je pense à mes amis. Tu vois tes amis mourir toutes les semaines, là?
Ah, moi, je passerais mon temps à boire de la Coors Light sur le perron puis à chioler après les chars qui passent
mais
dans la rue trop vite.
Mais tu chiolerais tout seul, Yann.
Ben oui!
vieux sénile, on va l'appeler.
Ah oui, c'est comme ça que je veux être.
Hey, je vais d'abord un flash. Moi, je fais encore de la radio, toi, t'es sénile sur ton balcon.
Je veux vivre le plus longtemps possible pour voir évoluer mes enfants, pour voir évoluer mes petits-enfants.
Ben oui, mais si t'es en santé, c'est le souhait de tout le monde.
Ouais.
Il y en a qui sont pas en santé, là.
Mémé, qu'est-ce qu'elle dit, Mémé? Pour travailler avec des personnes âgées depuis 20 ans, c'est un deuil pour eux de perdre leur permis de conduire, surtout les hommes.
Mmh, oui, bien oui. Mais
moi, c'est les commentaires que j'avais reçus quand j'habitais en Beauce, là. J'étais pour les télévisions locales, puis on allait faire des émissions spéciales avec les personnes âgées. Puis quand venait le temps de parler de permis de conduire, là...
C'était touché.
Les filles s'en sacraient à 80 ans de ne pas avoir le permis de conduire parce que le bonhomme est encore en vie, le vieux fatigué est encore en vie, fait que les deux se traînaient ensemble. Mais quand tu disais au gars, la conduite, allez-vous aborder ça un moment donné?
Et non.
C'est comme si tu leur arrachais le cœur.
C'est un échappatoire. Imagine-tu plus de moto,
quand
Yann?
Quand t'es trop tannante à la maison, tu prends ton char, tu sacs ton camp. Ça a toujours marché de main.
Tu peux pas faire ces affaires-là. Tu peux
non,
pas.
Non, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent.
Oh boy.
Mes clientes de taxi abandonnaient beaucoup plus facilement que les hommes. Christian qui dit ça.
Oh oui?
Ouais.
Eh ben.
T'es fou, hein?
Ben écoute, ça porte à réflexion.
Tout ça porte à réflexion.
On va beaucoup réfléchir aujourd'hui.
On prend un 2-3 minutes ensemble, si tu le veux bien, parce que tu m'as lancé un message hier. Un de tes innombrables messages vocaux.
Je regrette de t'avoir envoyé ça.
Sur Messenger. Puis je veux que tous les auditeurs écoutent ça. Parce qu'Audrey, parfois, peut être extrêmement surprenante. Audrey vient pas de Québec. Elle vient pas d'une grosse ville, c'est ça?
Ben oui. Non, tu peux le dire comme ça, oui. Oui.
Tu viens d'où?
Ouf, tu te lances dans... Écoute, je suis née du côté de Gatineau, mais toute ma famille, là, c'est à Côte-Nord. Fait qu'effectivement, que ça n'a pas toujours été la ville. Okay. Puis on a tellement déménagé souvent que j'ai pas été en plein milieu de Québec. Non, j'ai pas été élevée à Québec.
Moi, le 1er juillet, c'était la journée des déménagements.
Oui.
Ça faisait en sorte que partout au centre-ville de Québec, si tu te promenais sur le trottoir, il y avait des meubles, il y avait des vêtements qui avaient été laissés sur place, il y avait des lampes et tout ça. Puis il y a des gens qui se promenaient au centre-ville de Québec juste pour récupérer ça, puis aller revendre ça dans le magasin et ou ramener ça directement à la maison. Puis quand c'est le temps des grosses vidanges aussi, parce qu'il y a tout le temps un temps pour les grosses vidanges, ça a toujours été la même affaire. Ils mettent ça à un endroit bien précis, puis là, tu as les ramasseux qui passent avec le remorque. Puis ils ramènent ça à la maison, soit pour les revendre ou soit pour eux. Puis toi, c'est le genre de choses que tu n'avais jamais remarqué.
Bien, c'est parce que hier, je sais que ça a l'air toton, mais là, il faut que tu mettes un contexte, OK? J'habite à Deschambault. Dans une petite rue où il n'y a pas grand mouvement, c'est tranquille, là. C'est très tranquille à Deschambault. Puis hier, je vais prendre une marche avec mon chum puis mon chien. On va à Poste, qui est quand même un petit bout de la maison à pied. Fait qu'on part pour notre marche, tu sais.
Ça aussi, là, pour quelqu'un de centre-ville, c'est incompréhensible. Prendre une marche. Quand je suis arrivé en Beauce, puis il fallait que je prenne une marche pour aller à Poste.
Mais tu vois, je comprends
c'est quoi,
totalement.
Cette
puis le pire, c'est que je suis familière avec le ramassage de rue parce que mon chum est beaucoup de même. Mon chum, quand il y a quelque chose qui est encore en shape, il va le retaper, il va le prendre. Tu sais, chez eux, quand ils étaient jeunes, Yann, là, il allait chercher à ferraille les clous crochés pour les décrocher en famille. Tu comprends? Fait que mon chum a cette culture-là beaucoup. Moi, chez nous, on n'avait pas cette culture-là. Fait qu'hier, on prend une marche. Puis là, je remarque que dans la rue, il y a une auto un peu louche qui roule lentement. Puis il y a comme un cul-de-sac, nous autres. Fait que là, elle revient. Puis là, je dis à mon chum, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Je suis quasiment stressée parce que c'est pas quelqu'un qui vient de chez nous, clairement, ou qui est dans mon coin. Là.
Elle voulait peut-être enlever ton chum.
Au moins, il était avec moi. Fait qu'il était bien équipé, j'aurais pu le défendre.
C'est ça.
Fait que, puis là, je remarque pas juste ça. Je remarque du monde, des petits blocs pas loin qui sortent en gang, puis qui commencent à faire le tour, tu sais, puis sont dans la rue chez nous, puis je me pose des questions. Puis à un moment donné, mon chum, il me dit, ben non, André, check ses bords. Demain, c'est les gros rebuts, là.
Ouais.
Fait que tout le monde a mis des affaires sur le bord du chemin. Ils viennent ramasser ce qui leur plaise, finalement. Tu sais, puis là, t'avais un genre de vélo stationnaire, là, pour comme faire d'exercice, là. T'avais des chaises. T'avais-tu
ça pour faire?
Non, j'aurais peut-être dû. Mon chum, il me dit, ben non, c'est à cause de ça. Puis quand je suis revenue à la maison, j'étais là, et j'avais jamais vu du monde dans ma rue venir saigner pour voir s'il n'y avait pas du stock qui traînait, tu sais. Puis on a croisé une voisine à qui on a parlé, puis il paraît que c'est ça, c'est bien normal, le monde font ça, puis ça a peut-être l'air tellement niaiseux puis déconnecté, mais j'ai jamais fait ça. J'ai jamais pensé quand je voyais du stock sur le bord de la rue. Moi, chez nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait du stock à donner ou des gros rebuts de même, là, ou du linge, ou peu importe, on allait le porter directement dans les sous-sols d'église ou dans un gros container.
Ça se fait encore,
oui, c'est ça. Nous autres, on allait porter notre stock. Si on le laissait sur le bord de la rue, c'est parce qu'on le jetait.
Oui, il y a une clientèle pour ça. En fin de semaine, j'étais à Val-Bélair, puis ou un dépanneur. Dans le stationnement, il y avait quelqu'un qui faisait comme un marché public. Là. Fait qu'elle a ouvert sa petite vanne, puis elle a sorti ses trucs.
Oh.
Puis là, il y avait des messieurs qui arrivaient, qui prenaient le petit café au dépanneur, qui venaient de mettre de l'essence à 20$, puis qu'il allait voir la madame, puis achetait des cossins. Là. Mais c'était des cossins que, je veux dire, tu réutiliseras
des bibelots,
jamais.
Là, des... Oh, non,
ouais, c'est des vieilles affaires. Mais il y a une clientèle pour ça, comme il y a une clientèle de marché aux puces. Là.
Ah oui, puis moi, le pire, c'est que j'adore ça. Mais moi, c'était vraiment le principe de voir du monde dans ma rue. Il était quatre pour transporter le vélo. Tu comprends? C'était quasiment, genre, voyons, mais vole-tu le voisin? Là, sur le coup, j'étais vraiment comme quasiment inquiète de ce qui se passait dans mon voisinage. Je me suis vraiment sentie niaiseuse quand je t'ai écrit. J'envoie un message à Yann.
Ben
je suis comme,
hey,
c'est pas ce que je viens de vivre. Puis Yann est comme, mais c'est parce qu'Audrey, c'est
tout
totalement normal. OK, j'avais peut-être trop loin.
Il y a des personnages, hein, ces personnages-là. Là, je veux dire, faut que tu leur jases.
Ouais.
Moi, on faisait un échange de cadeaux dans le temps. C'était le cadeau le plus débile que tu pouvais donner à quelqu'un.
Okay.
Pendant le temps des fêtes, c'était une gang de chums. On faisait, des fois, on était 20.
C'était-tu du seconde main?
Des fois, on était 50. C'était toujours du seconde main. Puis des fois, c'était du bric-à-brac. C'était épouvantable. Fait que là, moi, je m'en vais au marché aux puces Jean Talon, qui est maintenant rendu le marché Jean Talon. Puis là, je te vois un cadre, Audrey, sur lequel il y a un poisson qui a été... Il a comme été...
Peinturé?
Oui, mais il a comme été vidé de son contenu.
Il a été cristallisé, là.
Il a été cristallisé et tout ça. Puis c'était un cadre avec un poisson de main. Je me suis dit, c'est tellement dégueulasse comme cadre. Fait que je jase avec le monsieur. Puis là, le monsieur, il prend le cadre. C'était très solennel. Là, il dit ça... C'est un cadre que j'ai fait en l'honneur de mon grand-père.
Oh, mon Dieu, Seigneur!
Il dit parce que c'est le premier poisson que j'ai pris quand mon grand-père me montrait à pêcher. C'était à telle rivière. Puis il me raconte une histoire pendant 5 à 10 minutes sans exagérer. Puis moi, je suis empathique avec le monde. Fait que j'ose, jase. Mais moi, mon objectif, c'est de l'acheter parce que je savais que le cadre était en vente, mais je connaissais pas le prix. Mais là, lui, il me parle de ça comme quoi il voudrait jamais s'en départir. J'ai dit « Parfait, j'ai dit, moi, c'est le genre de cadre qui m'intéresse. Faudrait que je vous donne combien pour partir avec? » « Ah, oh, donne-moi 5$. »
Mon Dieu, sa valeur émotionnelle était pas bien élevée, 5$.
Tu comprends que c'était
comme... Moi, toute ton histoire, je m'attendais à comme 200$.
Ben,
ça a une valeur, tu sais.
Exactement, mais le gars, c'est un personnage, là.
Mais c'était pas sentiment, moi, j'aurais dit de le garder, j'aurais dit « Mon pauvre monsieur. »
C'était le cadre, son premier poisson. Il y avait comme une histoire pour chaque objet dans son genre de marché aux puces.
Mais c'est ça qui est beau, c'est ça aussi.
Puis le cadre, c'est 5$ avec le poisson, c'était le premier poisson.
Tu l'as pris.
Ouais,
tu l'as donné à Noël à quelqu'un.
Puis là, tu sais à quel point je peux être un peu imbécile. Puis je dis, ben là, pouvez-vous me l'autographier en arrière? Si un jour quelqu'un le retrouve, il va savoir que ça vient de vous. Il dit, j'avais pas pensé à ça. Fait qu'il a autographié
le
poisson.
Ah, mais là, t'as sûrement fait sa journée en plus.
Oui.
C'est ça, juste par ton écoute, c'est ça que lui, là, tu venais de faire revivre de quoi,
ouais.
Là?
Mais tu sais quoi? C'est ça la beauté de travailler avec toi. Parce que tu vois ça comme ça. Moi, quand je suis reparti, là, je me suis dit, c'est clair qu'elle me niaise depuis 15 minutes. Là.
Ben non!
C'est clair.
Voyons, ça se peut pas.
C'est clair, voyons, Chris.
Hey, tu cristallises pas un poisson pour le fun, Yann. Il y a personne qui fait ça. Puis t'achètes pas ça non plus.
Parfait, OK. Je te montre comment moi je vois la vie, OK?
Okay.
Si t'avais un seul cadeau de ton grand-père qui était chez toi, tu l'amènerais-tu au marché aux puces pour le vendre 20$, 5$?
Ben là, non. Rendu à 75-80, puis il faut que je fasse du ménage chez nous, peut-être.
Mais tu comprends pourquoi je me suis reviré. Je me suis dit, c'est sûr que l'histoire n'est pas vraie.
Je comprends. Oui, mais il y a peut-être une bonne femme en arrêt de ça qui était écœurée bien raide de ça. Là.
Ah!
Parce qu'elle m'a dit quelque chose. Petite confidence rapide. Dans la catégorie des poissons cristallisés, mon père est un grand amateur de vin. Et mon père a décidé, il y a quelques années, au détriment des pensées de ma mère, de faire un cadre avec des bouchons de liège. Avec les bouchons de liège teintés de différents vins, il a créé une image dans un cadre et c'est juste des bouchons de liège qui sont collés là, puis à poser. Mais lui, ça a une valeur. Là. Mais tu comprends-tu qu'à un moment donné, mettons, mon grand frère se retrouve avec ça entre les mains, ça se peut que dans une couple d'années, il fasse comme bah, « ben ça, il y a une histoire, c'est mon père qui a fait ça, tu sais, mais j'en ai plus besoin puis je le veux plus. » Tu sais. Mais t'as raison, c'est la beauté de nous deux.
Oui, exact.
On se complète.
Une qui est tout le temps au paradis, l'autre qui pense toujours en enfer.
Oh, bienvenue dans l'Open Mic.
Oui, Caravane, One Minute sur les ondes de boulevard.
Dans l'Open Mic. Avec Marceau et Audrey Pinchot.
Boulevard 102.1.
On est quoi aujourd'hui? On est mercredi.
Yeah!
Style nombré de la semaine?
Oui. Ah, oh, mon Dieu, tu dis ça aussi.
Non, pas à tout.
Ah, j'allais dire, on va s'aimer longtemps.
Tu dis ça aussi?
Ben, je l'assume pas, mais je trouve ça cute à mort.
Ah,
bon
ouais.
Nombril!
Non.
C'est comme ça.
C'est lettre, un nombril.
Ah, oh, mon Dieu, un nom. C'est vrai que c'est pas beau. Je te l'accorde.
Ouais.
Nombril. Bédaine, ouais. J'aime pas ça non plus. C'est comme des mots qui me tannent.
La badaine.
Ouais.
10-27, vous avez des choses à nous dire sur le 88-971-1021. Je vous l'ai dit aujourd'hui, on va peut-être vous bouleverser dans un bon sens, des fois. Puis on y va un peu sur la personnalité d'Audrey, puis ma personnalité à moi. Des fois, ça peut être, on peut se confronter pas pire.
Oui.
C'est arrivé en début de semaine parce qu'elle m'a parlé d'un sujet qui me tient à cœur. Personnellement, mais professionnellement, je sais que c'est un sujet qui fait pas fureur quand on regarde les codes d'écoute. T'sais. Et j'ai dit à Audrey, ce sera pour une autre fois. Et Audrey a dit « Non! » J'ai dit « Oui! » Puis Audrey a dit « Non! » Puis là, j'ai dit « Oui! » Puis finalement, on en parle.
Oui. Différemment, par exemple,
Différemment.
Ça a fait cheminer.
Oui.
En début de semaine, je voulais... Puis c'est peut-être en même temps cliché, vous allez me dire. Vous êtes auditeur 88-971-1021, mais les Paralympiques commencent aujourd'hui. Il y aura cérémonie d'ouverture. Puis je serais un peu hypocrite de dire que c'est mon moment là, de l'année quand arrivent les Olympiques et les Paralympiques. Mais je trouvais ça important de mettre l'humain de l'avant dans sa différence et dans ses limites qui n'existent pas dans ce contexte-là. Puis on avait, bon, peut-être la possibilité de jaser avec une paralympienne de chez nous, tu sais, puis bref, on s'est mis à s'obstiner sur le fait que, hey, dans le fond, les paralympiques, les gens ont l'air de s'en foutre. Ouais, mais dans le fond, c'est important, Yann, parce qu'il faut mettre l'humain de l'avant, puis c'est important que ces gens-là puissent faire leur sport, même s'ils ont une limitation puis ont un handicap.
Ouais, je pense que tout le monde pense exactement comme toi, puis je m'inclus là-dedans. C'est très important qu'il y ait une représentativité dans les Olympiques.
Absolument.
Parfait.
Et là, c'était comment on l'aborde pour pas que ça soit plate, pour que les gens aient envie d'en entendre parler. Puis on est tombé dans des conversations un peu plus psychologiques sur les comportements de l'humain. Parce que tu l'as dit, il y a personne qui va dire que les Paralympiques n'ont pas leur place, n'a pas lieu d'être. Personne va oser dire ça. Ce serait pas bien de dire ça. Mais il y a des gens qui le pensent, qui n'en ont rien à faire, qui ne regarderont pas, qui n'ont pas d'intérêt. Puis c'est correct aussi.
En fait, la majorité des gens ne le regarderont pas.
Totalement. Fait qu'on a fait un petit vox pop, puis un petit sondage maison. J'ai envie qu'on commence avec le vox pop.
Ouais. Est-ce qu'il te reste des amis dans les gens que tu as interviewés?
Je vais savoir ça, mais qu'on sorte des ondes à 11h30.
Okay.
trois questions qui sont posées, puis vous allez comprendre un peu où on s'en va avec ça. Puis n'hésitez pas à participer, 88-971-1021, le Twitch, aussi sur le BLVD bar en dessous FM. Trois questions. La première, est-ce que c'est important qu'on ait des Jeux paralympiques? Et là, vous comprendrez que le contexte des paralympiques est vraiment juste un contexte, parce que ça s'applique à n'importe quoi d'humain au quotidien, le bénévolat, tout ce que vous voudrez. Là. Fait qu'est-ce que c'est important? Nomme-moi une discipline.
Aux Paralympiques?
Ben oui, mais si c'est si important, ils doivent savoir de quoi ils parlent.
Oui, il peut avoir le basketball.
Ben oui.
Il peut avoir les compétitions de vitesse.
Le curling en fauteuil roulant.
Curling. C'est plus... ça, je pense que c'est plus l'hiver. Ça se peut-tu?
Non, il y a vraiment du curling en fauteuil roulant en ce moment.
Okay.
Ah, ben, t'as peut-être raison, je veux pas m'avancer, mais sur le site des Paralympiques en ce moment, il est là.
OK.
Le football,
oui.
L'escrime en fauteuil roulant, ça existe aussi. Fait que, tu sais, il y a plusieurs disciplines. Mais je me demandais si les gens qui ne s'informent pas au quotidien sont quand même au courant. Ça les intéresse, c'était les Paralympiques. Et la dernière question, c'était c'est quand la dernière fois que tu as fait du bénévolat? Parce qu'on est tant des bons humains, tu sais. Fait que je te laisse écouter ce que ça donne.
On vous pose des questions qui vont vous mettre un peu dans l'embarras.
Est-ce que tu trouves ça important qu'on ait des Jeux paralympiques?
Ben oui.
Oui, pour encourager effectivement les gens différents, les mettre de l'avant, puis ils ont le droit d'être aussi sportifs ou même meilleurs que nous, et probablement même meilleurs que moi.
Pourquoi tu me demandes ça? Non!
Ben, pourquoi pas? Moi-même, je suis un handicapé. J'aimerais bien ça, participer à des Jeux.
Ouais, c'est vraiment important que tout le monde soit inclus dans des compétitions internationales comme les Jeux olympiques.
Est-ce que tu trouves ça important qu'on ait des Jeux paralympiques?
Tu veux vraiment me demander ça à moi? Hein?
Je trouve ça très important parce que c'est une personne qui est handicapée, puis qui a une passion, puis qui a un rêve, il a le droit, lui aussi, de réussir comme une personne qui n'est pas handicapée.
Oui. Oui, je pense que c'est important que tout le monde ait sa chance de participer dans des événements comme ça.
Nomme-moi donc une discipline.
Une discipline de paralympique, je me souviens qu'il y avait le basketball, entre autres.
La course?
C'est quand, là?
hoche un jugement ici.
Le volleyball en petit, sur des petits assis à terre.
J'ai vu l'autre fois le volleyball. OK. Tu as vu ça?
Et la course, le 100 mètres.
Est-ce que tu prêtes attention aux Jeux paralympiques? Est-ce que tu les écoutes?
Pas tant.
Honnêtement, je trouve qu'il y a moins de couverture médiatique, c'est que c'est un peu plus difficile de savoir c'est quand, c'est où les rendez-vous. Ouais.
Non.
C'est quand la dernière fois que t'as fait du bénévolat?
Je sais pas. Je m'en rappelle pas de ça.
Ça fait pas très longtemps, en juillet.
Ouais, aucune
idée. T'en as-tu déjà fait?
Ben oui. La dernière fois, je m'en souviens plus.
La dernière fois, laisse-moi penser, demain, je m'en souviens pas, pour être honnête. Fait que ça doit faire longtemps.
Quand j'étais jeune, dans une station de radio avec ma mère.
La dernière fois que j'ai fait du bénévolat, c'était cet hiver pour une compétition de taekwondo que j'étais bénévole.
Jamais?
2 ans.
Colin, t'es pas correct! Bye, bonne journée!
Faut dire qu'il savait pas nécessairement ce qu'on allait faire.
Pas du tout.
C'était juste de démontrer ce que j'essayais de te montrer à toi au téléphone. Ouais. Là, quand je te disais, tu sais, Audrey, tout le monde va te dire que c'est super important les Jeux paralympiques. Puis c'est la raison pour laquelle toi, tu voulais en parler dans notre émission. Mais concrètement, quand on regarde les cotes d'écoute des Jeux paralympiques, tout le monde s'en crisse. Et ça, je trouve ça pathétique que quelqu'un dise « Oui, oui, à mes yeux, à moi, c'est super important. »
Mais tu ne regardes pas.
Puis ils regardent pas.
Puis là, on s'entend qu'on généralise. Je sais qu'il y a des gens qui les regardent. Puis encore une fois, je pense qu'on a tous de l'admiration pour les gens qui y participent, qui sont impliqués dans ce processus-là. Mais ça s'applique à tout. Là, il y a le contexte des Paralympiques, ouais. Mais ça s'applique dans n'importe quel genre de situation.
C'est ça.
Tu sais, on parlait de la bouchée généreuse. On trouve tout ça épouvantable que les familles aient de la misère à se nourrir. Ouais. Quand est-ce que tu es allé faire du bénévolat la dernière fois?
Quand est-ce que tu as donné la dernière fois?
C'est ça, tu sais. Ouais. Puis c'est au bout de nos doigts. Il y a tellement de causes, il y a tellement de moyens de s'impliquer de plein de façons. Puis là, on tu sais, je parle de bénévolat, bon, dans le plus dramatique de la chose, mais que ce soit Nez Rouge, tu sais, il y a plein de façons de donner de son temps, mais on le donne pas, notre temps. Au contraire, on dit qu'on en manque constamment, puis on est très, très centralisé sur nous-mêmes.
Parce que tout le monde veut être virtueux, ou tout le monde veut paraître virtueux.
Ben oui.
Mais...
C'est pas un peu hypocrite?
Ben oui, ça l'est.
Tu sais, c'est un peu ça.
Puis je m'excuse de te l'avoir démontré.
Mais le pire, c'est que je suis d'accord avec toi. J'ai pas envie d'être d'accord avec toi. Mais même moi, ça m'a mené à me poser des questions puis à me dire, OK, tu sais, c'est vrai, c'est quand la dernière fois que j'étais allée en faire, moi, mettons, du bénévolat? C'est quand la dernière fois que je me suis impliquée ou que mes babines ont suivi... En fait, que mes bottines ont suivi mes babines. C'est plus ça, tu sais. J'ai fait un petit sondage maison pour conclure ce Vox Pop-là parce que je me disais... Là, moi, je me suis promenée ici, là, dans le building, là, à aller poser des questions à du monde par rapport, là. Mais... Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont répondre, tu sais, qui vont s'impliquer puis qui fait que est-ce que les paralympiques sont importants? 66% des gens disent oui, 13% disent non. Je serais curieuse de comprendre pourquoi. Il y a 21% des gens qui sont complètement indifférents.
Fait que quand même de l'honnêteté. 13% de psychopathes sur tes réseaux sociaux.
Ben, ou 13% de gens très honnêtes. Oui. C'est peut-être louable dans le fond. Pourquoi c'est important? Ben là, on l'a un peu dit, mais tout ce qui est représentativité, l'accès à l'excellence, même avec des limitations, je trouvais ça beau. L'exemple de résilience aussi, tu sais. Oui. Parce que tu as des gens qui ont un handicap que c'est pas de naissance. Ils ont vécu des affaires franchement traumatisantes, tu sais. Il y a des athlètes, je lisais un article d'opinion là, cette semaine dans la presse, là. Tu sais, il y a un des athlètes, là, à la nage, qui carrément, sa jambe a explosé, là. Il était en mission, puis... Fait que, tu sais, t'as des gens que c'est tragique. Fait que la résilience, c'est des modèles pour tous, c'est revenu pour sensibiliser les gens, c'est important. Puis de dire qu'un handicap, ben c'est pas une limite. Est-ce que tu les regardes? 88% des gens ont dit non. Il y a un petit 12% quand même qui disent que... Ils regardent les Paralympiques puis qu'ils suivent ça. Je ne sais pas si c'est totalement honnête, mais ces 12%-là sont là.
Je pense que dans ce 12%-là, il y a des menteurs.
Probablement.
Puis à mes yeux, à moi, les menteurs sont pires.
Oui, parce qu'assume-toi rendu là.
Exact.
Je veux dire...
Tu les écoutes pas, tu les écoutes pas. Dis pas que tu les écoutes pour paraître d'une bonne personne,
non.
Que moi, je vais te dire à quel poste de télé tu écoutes ça. C'est là où tu vas commencer à me détester.
Où c'est que tu peux les regarder, hein, les Paralympiques, si tu suis ça?
C'est où, hein? Écoute, tantôt, j'entendais du Guy Nantel.
Ah, ouais, ouais, ben oui, ben oui.
Oh, ça va être Audrey Nantel.
Ah, mais moi, j'aime ça, ces affaires-là. Là. Est-ce que tu es pour le bénévolat? Ben là, c'est sûr que 92 % des gens ont dit oui. Il y a 8 % des gens qui disent qu'ils sont pas pour le bénévolat. Là, je trouve qu'il y a de la... C'est sociopathe un peu pour vrai, ça, là. Et c'est quand la dernière fois que tu as fait du bénévolat, j'avais mis des options. Puis dans la dernière année, il y a un 50 % des gens quand même qui en ont fait.
Félicitations.
Dans le dernier mois, c'est autour de 20 %. Je trouve ça quand même pas pire. Le reste, ben c'est dans les 5 dernières années à 27 % et jamais il y a un bon 20 % qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait ce bénévolat-là. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a peut-être une éducation derrière ça. T'sais, je ne sais pas si toi, mettons, tu conscientises tes gars au fait que ça existe, Yann, au quotidien, puis ça ne fait pas de toi un mauvais père si tu ne le fais pas, là, mais mon point, c'est plus que moi, mettons, j'ai été dans un programme international, le PEI. Puis nous, ben, c'était une obligation pour avoir ton diplôme secondaire. Tu avais des heures par année à remplir. Puis c'était pas beaucoup, là, c'était un 10 heures. Là. Je veux dire, une journée, à la limite, c'est fait le 2, si vraiment tu y tiens. Puis dans toutes sortes de contextes, moi, j'avais été dans des centres de personnes âgées, j'avais fait du bénévolat dans plein de contextes différents, puis j'avais beaucoup appris de ça. L'affaire, c'est que quand je suis sortie du secondaire, demande-moi si j'en ai fait énormément depuis... Pas tant.
Ah ouais.
Ça fait pas partie de notre culture du quotidien. Je donne beaucoup, par exemple, monétairement. Quand l'Aubrivière a besoin dans le temps de Noël, quand on a des codes faciles, on peut texter aujourd'hui, ça, le don est là, mais donner de son temps, souvent, c'est ce qui aide le plus pour que la machine roule.
Il y a des choses qui sont très cool à faire dans le bénévolat. Moi, j'ai fait du bénévolat chez Adaptavie. Donc, c'est l'ancien hôpital François Charron. Mm-hmm. Puis, je m'occupais des gens qui étaient traumatisés crâniens. Ceux qui voulaient jouer au hockey, ben on faisait du hockey-ball dans le temps, ce qui est maintenant rendu le déco-hockey. Fait qu'on faisait du hockey-ball dans le gymnase. C'était Combe Desrochers, je pense, qui était superviseur à ce moment-là. Puis, à la fin... Quand je me disais, là, j'ai plus le temps de faire ça, je me suis rendu compte que ça m'apportait plus à moi qu'à eux autres.
C'est souvent ça?
Ben, faut dire que j'étais le meilleur joueur, là. J'étais le seul qui était en shape. Mais quand je suis parti de là, j'ai eu comme un petit deuil à faire. Parce que là, j'avais l'impression de changer le quotidien des gens.
C'est valorisant.
Ils sont à l'hôpital.
Ben oui.
Ils sont pas tout le temps contents d'être à l'hôpital, on va se le dire. Mais... Puis là, ben, on avait comme un deux heures d'activité physique. Puis ils appréciaient être là. Puis quand je suis parti de là parce que j'avais plus le temps, si je me suis aperçu que c'était à moi que je donnais plus qu'à eux autres. Là.
C'est vraiment très, très valorisant. Bien, on a un ami ici, nous autres, qui donne de son temps constamment, Jeff Fortin. Je veux le saluer parce que ça me fascine toujours à quel point il est impliqué. Puis lui, les bottines suivent les babines. Donc, pour parler de ça, on va jaser tantôt avec Guillaume Duluth, docteur en psychologie. Le principe, justement, psychologique derrière nos comportements, ça nous intéresse énormément. Si vous avez le goût de participer, bien, c'est le 88-971-1021, texto.
Oui, on a quelques messages qui sont rentrés, Audrey, si tu veux bien y aller là, pour les lire. Je pense que j'en ai vu deux, trois qui étaient extrêmement pertinents. Là. T'es as-tu?
Bien là, tu vois, j'en ai quelques-uns qui sont rentrés ici. Là. Bon, il y en a qui donnent leurs opinions, évidemment, sur les Paralympiques de façon plus précise.
Pour ce qui est de la couverture,
là.
Comme exactement. Quoi la couverture n'est pas assez grande. Moi, je les mettrais quand même
avant.
Pendant.
Ah oui, moi, je les mettrais avant les gros Olympiques, là, dans le sens que je trouve que c'est une belle prémisse. Tu commences à t'y intéresser, c'est un beau réchauffement.
Parce que sur tout TV, là, tu pouvais choisir ta discipline. Fait que si tu les mets pendant les Jeux Olympiques, les Paralympiques puis les Olympiques en même temps, bien, c'est sûr que la télé va couvrir comme juste une discipline. Mais pour ceux qui seraient sur tout TV, ils pourraient aller voir justement les Paralympiques.
Je dois vous dire, par exemple, que Radio-Canada a fait une super belle job avec les Olympiques cette année. Ils continuent de la faire avec
vraiment.
Les Paralympiques.
Ouais, ouais.
Et puis, je dois leur lever mon chapeau. Là. J'aime beaucoup la façon dont ils le traitent.
Sauf que
aussi,
l'audimat n'est pas là.
Oui. Non, non, ça, on se suit complètement.
Voilà.
Y a des éditeurs qui, en gros, là, j'ai lu pas mal tous les textos qui sont entrés en diagonale. Puis, ce qui revient, c'est pour être franc, si je tombe dessus, j'y porte attention, mais c'est pas quelque chose que je mets à mon horaire.
OK. Hey, je vous parle du Port de Québec qui vous invite à la troisième édition de la fête maritime familiale. Quand ça? Ben, c'est le 7 septembre prochain. Venez découvrir l'univers maritime à Québec dans une ambiance festive et familiale. C'est une superbe occasion de passer du temps en famille au cœur de la ville de Québec. On cherche souvent des trucs à faire. Ben là, je vous en donne un truc à faire qui est hyper le fun. Aussi, sur place, il y aura des cadeaux qui seront donnés aux participants de l'animation déambulatoire, démonstration sur le fleuve. Ça va brasser plusieurs activités gratuites aussi. Et bien plus, ça se passe le samedi 7 septembre de 13h jusqu'à 17h. Où ça? Au quai 21, derrière l'Agora du Port de Québec. On vous attend. Pour plus d'informations, visitez portquebec.ca ou encore le Facebook du Port de Québec.
Le beau-frère est en vacances chez vous? Amène-le chez Chaloux, ton spot à bière préféré. Toujours le plus grand choix au meilleur prix.
OK, 10h45, vous avez des choses à nous dire? C'est le 418-971-1021 par texto. Là, je vous le dis, ça risque de brasser. On a donné un coup de pied dans un nid de guêpes. Puis, on n'a aucune connaissance en psychologie. On a nos petites expériences personnelles, bien entendu.
C'est tout, hein?
Mais on s'est dit, on va aller jaser avec quelqu'un qui s'y connaît pas mal plus. Il est docteur en psychologie. Et pourquoi on a décidé de lui parler? Parce qu'on considère qu'on a de drôles de comportements comme être humain. On remarque parfois que les humains ne veulent pas déplaire. Tout le monde veut être une bonne personne, quitte à être même hypocrite et menteur. Puis le principe psychologique derrière nos comportements nous intéresse beaucoup. Donc, on va aller jaser avec Guillaume Dulude, qui est docteur en psychologie. On croyait faire un appel international, aller en Afrique, mais finalement, il est revenu à Montréal. Fait qu'on a quelques centaines de kilomètres qui nous séparent. Salut, Guillaume Dulude, salut!
Salut, ça va bien tout le monde?
Ben oui, on est content de te jaser. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Audrey, je vais te laisser poser tes premières questions.
Ah, écoute, ma première est très simple, Guillaume. On va y aller. Tu sais, tu dis on ouvre une boîte de Pandore. Je pense que j'ai envie, moi, ce matin, qu'on se dise un peu nos quatre vérités comme être humain. Est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite dans nos approches?
OK, c'est ça.
Ça va fort, hein?
Très bon. On l'est, puis on n'aime pas ça. Les humains n'aiment pas ça faire... se comporter différemment de ce qu'ils pensent ou ils ressentent. Mais des fois, c'est le meilleur comportement qu'ils pensent faire. Donc oui, il y a un peu d'hypocrisie là, qui se glisse dans nos comportements.
Mais pourquoi l'être humain est comme ça? Puis on peut faire un parallèle avec les sondages. Tu sais, quand il y a des sondages, là, s'il y a quelque chose qui n'a pas la cote, mettons, on se fait poser une question, on sait pertinemment que la majorité des gens répondraient telle ou telle réponse. Fait qu'on va répondre comme eux répondraient plutôt que notre propre réponse à nous. Pourquoi on se ment à nous-mêmes quand on fait ça?
C'est parce que le cerveau, c'est une machine de calcul de gains en énergie. Et un calcul de perte potentielle. Donc, parmi les gains potentiels les plus importants, c'est l'approbation sociale et le fait d'avoir une haute valeur sociale, ce qui s'appelle le prestige social. Et plus ton prestige social est élevé, plus ton cerveau se situe dans une haute position hiérarchique dans un groupe. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important, je pense, pour le sujet dont on parle ce matin. Les humains sont obsédés de leur positionnement hiérarchique. C'est sûr qu'on ne pense pas à ça consciemment sans arrêt. C'est un modus par défaut de s'orienter vers ce qui va nous avantager le plus. Et donc, pour maintenir une position sociale ou éviter de dégringoler d'une position sociale qui est carrément la plus grande phobie des humains, ben, il faut que tu puisses organiser un discours qui va faire en sorte que ta perception externe, ta perception sociale va pouvoir te maintenir dans le plus haut statut possible. Mais ça vient avec un coût, c'est-à-dire des fois, ce que tu aurais le goût de dire, ce n'est pas ce qui va t'avantager socialement dans le moment présent. Et c'est là où ce que tu ressens, puis ce que tu veux dire, puis ce que tu montres publiquement, ben là,
c'est dur de s'assumer.
Ouais. Puis ça, Guillaume, on y va d'instinct pour être sûr et certain de grimper dans une certaine hiérarchie sociale. Est-ce que ça peut être comme, je sais pas moi, un loup dans une meute, il veut constamment essayer de grimper la hiérarchie, puis il veut constamment savoir où est-ce qu'il se situe?
Oui, c'est il y a plusieurs modules dans le cerveau qui vérifient sans arrêt notre positionnement. Ah, ouais. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On évalue ça sans arrêt, sans arrêt. Et aussitôt que soit que notre cerveau anticipe qu'il peut y avoir une destitution, une forme de dévalorisation, de dégringolade hiérarchique, il y a de l'anxiété qui va arriver, il va y avoir des mécanismes automatiquement qui vont arriver, la plupart du temps non conscients, pour tenter d'empêcher cette chute-là hiérarchique.
Est-ce que le fait aussi qu'on simplifie peut-être le bien et le mal, tu sais, on l'apprend quand on est jeune, qu'est-ce qui est moralement correct, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça peut-tu venir jouer dans la balance? J'ai l'impression des fois qu'on ne se pose pas assez de questions.
Oui, c'est aussi un énorme sujet. C'est le bien et le mal, où est-il? Sous quelle forme se présente-t-il? Comment on se positionne par rapport à ça? Donc, c'est qu'est-ce qui est perçu comme le bien et le mal dans un groupe, dans une société ou dans un système? Évidemment, publiquement, tout le monde va être pro ce qu'on appelle le marketing du bien, donc, ou la vertu. Il n'y a personne contre ça. Donc, ça veut dire que si, mettons, tu as une opinion qui ne va pas dans ce sens-là, toi, bien, tu vas risquer un backlash quand même important. C'est-à-dire, si tu te prononces contre une vertu du moment qui est jugée bonne, ben là, tu t'exposes à être rétrogradé dans ta hiérarchie parce que là, il faut promouvoir quelque chose qui est fort, quelque chose qui est bon hiérarchiquement. On ne promouvoit jamais quelque chose qui n'est pas bon. Donc, tu prends un risque social en disant quelque chose qui va aller à l'encontre là, d'un courant actuel.
Puis dans nos comportements quotidiens, mettons que je prends l'exemple, tu sais, tantôt on jasait beaucoup de bénévolat. On va savoir que le bénévolat puis aider les gens qui sont plus dans le besoin que nous, bon, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est important. Tu sais, ça fait partie de la catégorie du bien. On l'assume, puis il n'y a personne qui va dire que ça n'a pas lieu d'être, on s'entend.
Est-ce
qu'on est rendu, par exemple, insensible? Puis je m'explique, j'ai le sentiment qu'on nous montre tellement la misère humaine, que ce soit par de la publicité, des films, tu sais, des scènes des fois qui n'ont pas de bon. On sent que c'est comme si, là j'écoute, c'est peut-être juste moi dans ma tête, là, mais c'est comme si on ne faisait plus la distinction avec la réalité, donc on est moins touché et porté donc à aider. Vois-tu où je m'en vais?
Excuse-moi, je t'ai perdu dans ta question à un moment donné.
Je me répète.
C'était trop compliqué pour moi. Si t'avais juste à me la simplifier juste un peu pour m'aider un peu.
Est-ce qu'on est rendu insensible, en fait? C'est un peu ça, mon questionnement. On est beaucoup exposé à toutes sortes de scènes, puis j'ai le sentiment que des fois, on est moins porté à aider ou à se laisser amadouer par certaines situations, même si on devrait.
Okay. OK, je comprends. Oui. Alors, il y a d'autres mécanismes qui empêchent la manipulation. Alors, les humains fonctionnent en préservant le maximum de ce qu'on appelle l'autonomie. L'autonomie, c'est de dire, mon cerveau peut générer des désirs, des comportements, des intentions, et je veux faire ça sans avoir à payer le prix de cette autonomie-là. Donc, on veut protéger l'autonomie. Maintenant, on est dans un système humain, un système médiatique très complexe avec toutes sortes de demandes qui vont à gauche et à droite et sans arrêt et sur toutes les plateformes. Maintenant, au bout de tes doigts, au téléphone, à chaque seconde, tu es sollicité. Mais quand tu es sollicité, le cerveau est toujours dans un dilemme, c'est-à-dire là, moi, je n'ai pas le goût d'aller dans ce sens-là, j'ai le goût de penser à moi, mais d'un autre côté, je ne peux pas m'opposer à cette cause-là. Donc, c'est là où tu as le cœur déchiré en deux et là, la culpabilité arrive. C'est-à-dire, la culpabilité a un rôle prépondérant dans le thème dont vous parlez aujourd'hui. C'est-à-dire, sur le moment, j'ai le goût de penser à moi, mais généralement parlant, la bonne chose à faire, ça serait d'encourager ça. Sauf qu'encourager ça, concrètement, ça veut dire faire de l'effort, ça veut dire qu'il faut que je m'implique et j'ai de la misère à avoir la fin de mes propres journées. Mais je ne peux pas non plus dire non à aider mon prochain. Donc, on est pris dans des conflits moraux et entre penser à son confort puis essayer de s'impliquer dans des grandes causes.
C'est de l'activisme paresseux.
Ben, l'activisme, pour moi, c'est un peu différent parce que, mettons, je sais, toi, est-ce que tu te considères très, très activiste extrême?
Ou pas tant.
À part à la maison qu'avec petit chum, là.
Je te mentirais, Guillaume, de te dire que oui, là.
Bon, ben, mettons, toi puis moi, on n'est pas des activistes extrêmes, mais ça n'empêche pas que toi puis moi, on veut le bon des autres.
On
veut que le meilleur se passe pour les autres, donc ça veut dire qu'on a de l'empathie. Quand d'autres souffrent, moi, je ne suis pas content. Si moi, j'avais le choix de dire... j'aimerais mieux qu'il y ait moins de souffrance que plus de souffrance, c'est sûr que je pèse sur le piton moins de souffrance. Mm-hmm. C'est comme, OK. Mais là, la question, c'est OK, mais s'il faut que je fasse beaucoup, beaucoup de choses pour que ça arrive, wow, là, ça commence à empiéter sur mon temps de moi. Et là, je suis en compétition avec ce que je souhaite, qui aimerait, qui est une vertu, un vœu, un souhait, avec concret, la vie concrète, c'est-à-dire le coût, parce que là, il y a des ressources qui sont allouées, qui ne sont pas limitées, c'est-à-dire ton énergie, ton argent, 24 heures en une journée.
Mais c'est pas des excuses un peu, Guillaume? Tu sais, on dit tout le temps qu'on peut faire du temps, on peut créer le temps quand on le veut, là.
Ah, c'est 100% des excuses, mais ça s'appelle aussi des choix. Mm-hmm. Ça s'appelle des priorités, ça s'appelle des compétitions internes sur qu'est-ce qui vaut le plus cher pour toi, malgré ce que tu sens. Donc, on se sent complètement divisé. Mais là, pour venir à ta question, c'est que pourquoi on devient plus résistant? C'est que les humains sont de plus en plus sollicités sans arrêt. Ton téléphone, tu vas être harcelé de messages qui vont te faire vivre de la culpabilité de pas tout à fait de conduire avec la meilleure version de toi possible. Mais d'un autre côté, tu vas dire, hey, là, je suis quand même une bonne personne. Fait que là, il faut que tu te justifies intérieurement dans ta tête de dire, hey, je suis une bonne personne, là, c'est juste que là, je ne peux pas aider tout le monde. Puis là, je suis déjà en train d'aider ma famille. Puis là, Et là, tu pars, puis on se bat contre ça par culpabilité. Et depuis les médias sociaux, depuis qu'on a un téléphone intelligent, ce conflit-là interne est sans arrêt. Et donc, le cerveau, par économie d'énergie, il faut qu'il se protège, d'où ce que tu appelles la résistance. Et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, il faut que je me ferme un peu plus parce que sinon, je ne ressens que de la culpabilité.
Cette discussion-là qu'on a, Guillaume Dulude, juste à rappeler aux gens que tu es Guillaume Dulude, docteur en psychologie chez Psycom, cette discussion-là que j'avais avec Audrey en début de semaine, ça a parti sur l'idée de faire venir des gens pour nous parler de Jeux paralympiques. T'sais. Moi, je suis très honnête avec Audrey, j'ai pas le choix de le faire par le métier que je fais. L'idée derrière tout ça, c'est d'intéresser le plus de monde possible. Et je dis, Audrey, tu sais, toi et moi, on sait que c'est important les Jeux paralympiques, mais concrètement, quand on regarde les codes d'écoute des Jeux paralympiques, la majorité du monde s'en sacre éperdument, ils ne regardent pas ça. Mais ils vont tous te dire que c'est important, les Jeux olympiques. Mais ils ne prendront pas la peine de regarder une discipline et de la suivre de A jusqu'à Z. Puis on dirait que plus on vieillit, Guillaume, plus on porte attention au comportement humain des gens qui nous entourent, plus les gens qui sont inconséquents m'agacent. Parce que à mes yeux, à moi, puis je vais te donner un exemple de quelqu'un que tu dois déjà avoir vu passer dans l'actualité, Stephen Guilbeault, qui est le ministre de l'Environnement au Canada, qui est un gars avec qui, probablement, je m'entendrai jamais. Mais le gars, il venait en entrevue avec moi des 3 heures de temps, à peu près à chaque mois. Il partait de Montréal en autobus, il arrivait à Québec, puis il marchait jusqu'à la station avec son gros côte d'hiver, sa grosse tuque sur la tête, ses grosses bottes, puis il arrivait, il me serrait la main, puis il me parlait d'environnement. Moi, là, ça, là, même si le gars, c'est le gars avec qui je m'entendrais probablement le moins sur la terre, le gars était conséquent avec ses propos et avec ce qu'il prônait. Et moi, ces hommes-là, des hommes conséquents, hommes et femmes conséquents, j'admire ces gens-là, même si je pense pas comme eux, mais on dirait que il y en a pas beaucoup de ces personnes-là. Un politicien qui va me dire, ben là, Yann, on aimerait que tu sois constamment dans le transport en commun parce que ton véhicule pollue, mais que je vois que le politicien, il voyage à gauche et à droite pour rien dans le monde en avion, juste pour faire des voyages, aller serrer des mains et tout ça, alors que le Zoom existe aujourd'hui. Moi, je trouve pas ça conséquent. Et ce politicien-là ne rejoint pas mes valeurs à moi, tandis que l'autre avec qui je m'entendrais pas rejoint plus mes valeurs à moi parce qu'il fait ce qu'il dit, puis il pense ce qu'il dit.
Oui. Oui, puis je pense que, veut pas, qu'on soit d'accord ou pas avec le propos d'une personne, je pense qu'une des règles les plus importantes entre humains, c'est la cohérence.
Oui.
Une personne qui réussit à être cohérente, ça veut dire que c'est une personne qui a tracé des lignes morales, comportementales et des buts orchestrés là-dedans et est capable de faire les sacrifices appropriés pour ça. Juste ça, c'est absolument honorable et je vous dirais, c'est rare. Une personne qui est capable d'être cohérente entre ses mots, comment elle se sent, elle se comporte, c'est vraiment difficile et je suis à la même place que toi, mais c'est pas commun, c'est vraiment pas commun.
Non, mais ces gens-là, on doit s'entourer de ces gens-là parce que, je veux dire, à mes yeux, à moi, j'aime mieux avoir des gens cohérents à côté de moi avec qui je m'entends pas que des gens qui le sont jamais. T'sais, ils vont dire quelque chose, mais ils vont faire le contraire.
Oui, on a tous un côté incohérent, par exemple.
Moi, je suis pro-environnement, je suis un environnementaliste, mais quand tu regardes la maison, tout est le bordel partout, il fait son changement d'huile, sac ça dans les poubelles, c'est du gros n'importe quoi. Il y a des gens qui veulent être extrêmement vertueux, qui se disent vertueux, qui constatent à quel point les politiciens peuvent dire des choses qui sont ignobles et font la morale à ces politiciens-là.
Mais ils votent pas.
Mais ils votent pas. Et où, dans leur vie en général, ils font totalement le contraire de ce qu'ils prônent dans les médias. C'est ça qu'on appelle du virtue signaling?
C'est ça et d'autres choses en plus. Mais oui, ça commence avec l'idée que... Parce que là, c'est ça qui est intéressant dans votre sujet ce matin, c'est qu'il y a des choses qu'on trouve moralement bonnes, il y a des choses qu'on veut mettre de l'avant, mais après ça, tu peux faire d'autres choses, dépendamment de ton agenda secret dans ta tête. En ce moment, le fait de dénoncer des vertus, de t'afficher ou te brander comme une personne vertueuse, c'est un branding. Et c'est avantageux politiquement, socialement, et c'est avantageux même en termes de ton emploi et de ta réputation. C'est bien vu maintenant d'être une espèce de roi ou de prêtre qui dit les règles et qui informe les autres des bonnes règles et qui informe les autres de ceux qui ne font pas les bonnes choses. Donc, ça vient avec un espèce de rôle qui est pseudo-religieux maintenant, le virtue signaling. Puis évidemment, les experts de ça sont les grands, grands activistes, ceux qui sont 100% dédiés à ça. C'est pas juste la paresse ou le fait de dire « Ah, ils sont pas tout à fait cohérents. » Pour moi, on n'est plus dans ça. On est dans une stratégie qui consiste à utiliser la supériorité morale et convaincre les autres qu'ils se comportent mal. Donc, c'est un jeu de pouvoir à ce moment-là.
Y a-t-il un peu de narcissisme là-dedans?
Oui, c'est absolument. Oui, il y en a du narcissisme. Parce que pour faire ça, tu dois penser qu'il y a une supériorité morale qui t'appartient. Donc, le narcissisme, hein, si on résume, c'est une perception d'une valeur supérieure par rapport aux autres, mais sans vraiment preuve de ça. C'est-à-dire que si tu mesures, par exemple, là, des personnes qui ont un haut score de narcissisme, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils sont d'habitude dans la moyenne. Okay? Grosso modo, c'est ça. Mais dans leur tête, ils sont meilleurs et où ils ont une valeur plus grande. Et donc, ils accumulent un décalage avec la réalité et leur façon de fonctionner consiste à maintenir l'illusion qui sont meilleurs. Alors, la chose que tu peux faire le plus vite en ce moment avec les courants actuels et les médias sociaux, tu peux te montrer moralement supérieur parce que la moralité est aussi une hiérarchie. Donc, tu peux te servir de cause, de groupe, de tendance pour devenir de façon autoproclamée le leader de cette cause-là et par conséquent, tu t'assures d'avoir une reconnaissance, un prestige supplémentaire.
Fait que si je te suis, moi, demain matin, sur les réseaux sociaux, je pourrais partager tous les jours des posts d'enfants en Afrique qui mangent pas, des posts de guerre, des posts de toutes sortes d'affaires. Je pourrais partager plein, mais ne jamais m'impliquer dans la communauté, exact. Être semi-informé, pas trop savoir de quoi je parle. C'est bien exact. Ça? Donc, 70 % des internautes, c'est ça?
Mais non, c'est qu'il manque un morceau à ton affaire, parce que okay. Là, oui, ça, c'est la plupart des internautes ce que tu viens de dire.
Vas-y.
Alors, la composante magique, c'est que dans ta nouvelle carrière là, que tu me présentes, il faudrait que tu me présentes c'est qui les méchants. Il faut que tu me présentes des oppresseurs, un groupe d'oppresseurs, et que tu sois la plus haute hiérarchique par rapport aux victimes. Donc, tu es maintenant le rôle de la sauveuse de ce groupe-là, une sauveuse non élue par personne, autoproclamée.
Ouais.
Mais c'est comme toi, dans tout l'ensemble des victimes ou de cette cause-là, qui est sur le top. Et par conséquent, tu es auto-investi dans ta tête d'une mission qui justifie les attaques et même de la violence contre les oppresseurs que tu vas avoir déterminé toi-même dans ta propre vision des choses, en dehors des faits. Donc, tu vas manipuler les faits, tu vas prendre des faits, tu vas te convaincre de ça, tu vas t'inspirer d'autres activistes qui pensent comme toi. Il va y avoir du regroupement parce qu'on veut rester sur le top de cette business-là. Donc, évidemment, là, je dis ça, hein, mais personne dit ça. Là. Ce qu'on se dit là, c'est un sujet hyper, hyper, hyper tabou. Là. Je me souviens même pas quand est-ce qu'une émission m'a invité pour dire
Bienvenue
ça.
Bienvenue dans l'open mic.
Oui, mais c'est comme ça. C'est une quête narcissique qui vise à rééduquer l'environnement selon sa façon. Donc, c'est garder un contrôle. Il ne s'agit pas simplement de postes déresponsabilisants ou avec des valeurs.
T'es-tu encore capable, Guillaume Dulut, c'est une question vraiment personnelle, t'es docteur en psychologie, t'es-tu encore capable d'apprécier le monde?
Hey, si tu savais à quel point c'est une bonne question,
si tu savais... Parce que moi, je te suis depuis des années, j'ai lu tes livres, je te trouve très pertinent, tu nous apprends constamment des choses. Je regarde tes épopées en Afrique, ce que tu apprends aux gens qui vont voyager avec toi en Afrique. J'apprends plein de choses, puis des fois, je jase avec Audrey, qui est une fille qui est extrêmement positive, puis j'ai l'impression comme d'être l'éteignoir. Puis quand je vais sur Facebook, puis là, je vois des affaires, puis je me rends compte des gestes que ces gens-là posent, qu'ils veulent faire comme geste, sans nécessairement laisser savoir, je me dis, faut que j'accepte qu'il y a des gens comme ça qui font ça sans nécessairement faire par exprès. T'sais. Ils ont le droit de se prétendre être le chef des victimes, mettons.
Ça me tape les nerfs.
T'es-tu capable de les aimer, ces gens-là?
Ah, mon Dieu, hey, c'est bon comme question. Vous êtes vraiment bon, franchement. Je ne pensais pas aller là. Alors, c'est un défi personnel quotidien. Puis, c'est pas. je ne dis pas ça de façon légère. C'est actuellement un défi pour moi parce que ces choses-là ont changé beaucoup depuis 5 ans. En 5 ans, la même job que je faisais, les mêmes ateliers, les mêmes formations, le même discours,
ouais,
depuis 5 ans, tu peux dire n'importe quoi et tu vas avoir des regroupements qui vont faire des plans élaborés là, pour court-circuiter et nuire. On n'est pas du tout sur la même planète. Et moi, je peux vous dire, ça me coûte 300 000 piastres d'avocat par année facilement. Là. Facilement.
Ben voyons donc.
Parce que c'est une job à temps plein, activiste. Et ils se croient, c'est une religion, OK? C'est vraiment une religion installée et c'est pas facile à bouger. Donc, pour répondre à ta question, c'est qu'il faut, pour moi, ça me prend un travail actif de dire, ceci ne représente pas la majorité de la population, ça représente une minorité de la population qui est très organisée, très bruyante.
Mais c'est dur!
Oui, mais il faut s'accrocher sur le fait que c'est comme les humains ont beaucoup de bonnes choses à faire. S'ils savent quoi faire, s'ils savent comment jouer au jeu de la vie, s'ils savent comment se connaître, s'ils savent comment faire des plans, réaliser des choses, voir où est le potentiel. Quand tu commences à être équipé, là, tu construis quelque chose. L'activiste n'est pas basé sur construire quelque chose. C'est basé sur dénoncer quelque chose et neutraliser les méchants. Ce qu'il faut faire, c'est dire, est-ce qu'il y a des problèmes? OK, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble de plus? Mais ça, c'est moins spectaculaire. Mm. Tu ne peux pas être hiérarchiquement meilleur que les autres. C'est du travail d'équipe, c'est de la petite poutine d'humain, mais au moins, elle est saine et c'est faisable. Donc, c'est sûr qu'il faut se remettre le focus sur notre vrai job d'humain, de dire, il ne faut pas se laisser intimider par ça, parce que l'intimidation fait partie des stratégies activistes aussi, affecter ta réputation et tout ça. C'est toutes des stratégies pour neutraliser l'opposition, pour renverser ta hiérarchie, s'assurer que tu restes sur le top.
C'est pas des discussions saines, mais pas en toute
la... Non, puis ces gens-là se considèrent, ils considèrent le droit de dire à peu près n'importe quoi sur toi, même à saloper ta réputation pour te détruire.
Ouais.
Mais dans leur tête, ils ont résolu ce conflit-là en disant « Oui, mais ma quête est tellement grande et c'est moi qui dois le faire. »
Sauf qu'ils font rien de concret pour cette quête-là. Moi, c'est ce qui me met dans tous mes états, à part crier fort. Il se passe pas grand-chose. Mettons, Guillaume, qu'on ramène ça à, j'allais dire, au petit monde. Donc, moi, toi, Yannick et tout le monde à la base, mettons, les gens qui sont pas dans les extrêmes, tiens, je vais le dire comme ça. Oui. Est-ce qu'on doit s'en vouloir? T'sais, mettons qu'on revient à la base du sujet, là, t'sais, qui est le fait qu'on n'est pas toujours conséquent entre ce qu'on prône bien au quotidien et ce qu'on fait pour réellement suivre finalement nos paroles. On doit s'en vouloir ou nos excuses ont peut-être lieu d'être à quelque part?
Moi, je pense pas qu'il faut s'en vouloir parce que ça, c'est surfer sur de la culpabilité. La culpabilité, c'est un des plus gros... Une des émotions les plus toxiques qui va te rétracter, créer de la honte, qui va te rendre encore plus narcissique et nombrilistique parce que tu vas être attardé à te déculpabiliser de quelque chose. Alors, tout le monde est coupable de quelque chose. Un, donc déjà là, oui, on est tous coupables de quelque chose. Deux, on n'est jamais parfait. Par contre, en étant imparfait et en étant pas toujours cohérent, l'objectif, c'est de dire, oui, mais je suis capable d'être de plus en plus cohérent et je vais déterminer plus précisément en quoi je vais être cohérent et quels sont mes thèmes les plus importants pour moi, puis je vais essayer de me dévouer plus à être cohérent pour moi dans ça. Et ça, c'est un beau projet personnel, psychologique, qui va avoir des répercussions, non seulement personnelles, mais plus larges, parce que ça va te donner une ligne de pensée. Ça va te rendre plus courageux pour dire, regarde, je pense comme ça, je veux me comporter comme ça. Et ça, prendre cette responsabilité-là de dire « je pense comme ça, je vais me comporter comme ça », automatiquement, tu vas aller vers la meilleure version de toi. Là, tu commences à avancer vers une route qui te construit. Mmh. Donc, c'est dire « je veux m'améliorer, je suis un projet en développement, je veux améliorer des causes puis des choses dans ma vie et dans le monde ». OK, bien, je suis en train de construire et je vais accepter les sacrifices que ça prend, même si je ne vais pas toujours réussir puis ça sera imparfait. Au moins, tu es en train de t'attaquer à quelque chose qui est humainement, fondamentalement bon. Et ça devrait être quelque chose qu'on devrait faire, mais c'est souvent pas spectaculaire.
Ouais.
C'est souvent pas glamour.
Puis en même temps, c'est pas
le vrai travail est dans le noir.
C'est vrai, mais tu as tellement raison.
Ouais. Puis il faut accepter de déplaire quand on est conséquent.
Ça, c'est un autre gros problème, c'est que
une autre avec discussion,
les réseaux sociaux, on n'a pas de tolérance à ne pas plaire. Donc, ça veut dire que tu vas modifier ta façon de penser et tes mots pour avoir un maximum de gains externes, c'est-à-dire le maximum de following, d'approbation sociale.
D'après moi, Guillaume, on n'aura pas le choix de se rejaser pour traiter et une autre affaire.
Hey, Guillaume, dans les prochains jours, c'est-à-dire le 20 octobre prochain, tu prépares un séminaire immersif de psychologie et de leadership. Tu fais ça dans la grosse bâtisse à Montréal, de ce que je comprends. Et ce que je trouve incroyable, c'est que tu as des invités de marque ce soir-là, puis dont un que... J'ai lu ses livres, j'ai eu le plaisir de l'avoir en entrevue, puis je pense que je vais aller faire un tour strictement pour cet invité-là en particulier, c'est Chris Hadfield, l'astronaute.
Mm-hmm. Oui, ben merci de le mentionner, ça fait plaisir. Ça s'appelle l'événement Y pour souligner la Journée internationale du courage et de la responsabilité. J'ai réalisé il y a 2-3 ans que ça prend une journée où on se mobilise sur des facteurs qui nous aident vraiment, pas juste sur des causes à l'extérieur de nous. On est dans une ère où une ère de droit, une ère où on exige des choses de l'environnement. Le problème, c'est que la machine humaine marche pas comme ça. Et comme la vie passe vite, nos années de vie passent vite, moi, je propose la solution qu'on se concentre sur nos propres projets, notre propre vie pour la faire avancer. Et ça se fait. Et donc, pour cette activité-là, ben, ça s'appelle l'événement Y. L'année passée, on a réuni presque 5000 personnes au Palais des Congrès et on a ramassé 100 000 $ de dons pour les jeunes. Et là, cette année, ben, c'est au Centre Bell. Donc, on espère de faire la même chose et mieux. Et on va parler de psychologie, on va parler de stratégie pour avancer, comment faire des choix, comment avancer en couple, comment tasser la culpabilité, transformer ça en énergie, comment on utilise des passions, comment ça marche une passion. On s'est aperçu que la plupart des adultes ont perdu leur passion. Ouais. Mais c'est super important parce que c'est de l'énergie brute qui te permet d'affronter tes journées et tes défis. Donc, il manque des morceaux importants pour qu'on puisse créer la vie qu'on peut avoir et ça se fait. C'est juste qu'on veut passer une journée, on va mettre des morceaux ensemble puis on va mettre des journées, des personnes inspirantes sur la scène qui l'ont fait. Et moi, je vais décortiquer tout ça théoriquement toute la journée.
Ah, c'est le fun.
Faire en sorte qu'on le fasse.
Donc, Chris Hadfield, Serena Williams qui va être là, Anthony Cavana va être avec toi, puis il y a bien d'autres invités qui vont être sur place. Si je veux des billets pour le 20 octobre, je me procure ça à quel endroit?
Sur mon site web, communicationpsychom.com, et vous allez avoir une page de vente. Il y a des billets de tous les prix qui s'adaptent à tous les budgets et vraiment... vous le faites pour vous, là, ceux qui veulent aller de l'avant, vous allez récolter quelque chose qui est très puissant, c'est-à-dire des outils pour entamer votre prochaine année, puis créer quelque chose qui est fort, être équipé pour avancer, mais aussi tous les profits vont être donnés aux écoles. Donc, ça, c'est pour une bonne cause, pour commencer à aider les écoles qui ont un peu de misère aussi.
Guillaume Duluth, docteur en psychologie, un gros merci d'avoir été avec nous.
Hey, merci à vous autres. Merci de votre temps. C'était merveilleux. Merci.
Bonne journée. Salut. À la prochaine.
Bye-bye. L'excellent Guillaume Duluth qui était avec nous. 418-971-101, si vous avez des choses à dire. On fait une courte pause. Vous êtes sur les ondes de Boulevard dans l'Open Mic.
Gravel. Dans le retour. Gravel.
J'ai demandé des duos qui chantent. Tu m'as dit les Black Keys.
Non, mais oh, laisse donc.
Mais c'est deux.
Oh, mais il y en a un qui chante pas.
Toi, là, depuis qu'il y a un boss, tu prends tout le temps son bord.
C'est pas vrai, ça.
Ça m'agresse.
Ça, c'est
profondément.
Pas vrai.
C'est vrai.
Des fois, je prends ton bord, des fois, je prends
c'est
le
C'est fini,
je
ce temps-là.
Comme sur un skateboard, il faut que je garde un équilibre.
Ouais, skateboard,
là.
Il est rendu plus pesant du côté
banane.
Patronal. Hein? Moi, je suis rien qu'un vulgaire employé. Mais oui. Rendu tout seul ici.
Hey, j'ai pas l'air d'avoir une opinion.
Les auditeurs. Toi, ta propre opinion, c'était pas une opinion. Les auditeurs, ils ont compris ce que je voulais, un duo vocal.
Mais y a personne qui a les mêmes règles, Denis.
C'est pas des règles, c'est pas un jeu.
Il ne veut plus jouer.
Ça fait même pas 3 jours qu'on est revenus ensemble.
11h19, il nous reste encore quelques minutes ensemble.
Ah, c'était le fun!
Les enfants sont-ils rentrés à l'école, Audrey?
Oui, ben oui, l'école est commencée pour plusieurs. Pas juste pour les enfants, il y a les cégepiens aussi. Oui,
mais tes enfants sont-ils rentrés à l'école?
Ah, j'ai pas d'enfants.
Ah, ben encore. Les miens, oui.
À un moment donné.
Puis... Hier, leur mère, qui est exceptionnelle, soit dit en passant, leur a demandé... Mes chéris, avez-vous des objectifs pour votre année?
Ah, c'est beau, ça!
2024-2025. Votre année scolaire 2024-2025. Hé, que j'haïssais ça quand ma mère me demandait ça. As-tu des objectifs cette année?
Ouais.
passé.
Celui de beaucoup d'étudiants. Mais tes gars sont jeunes, fait que peut-être que ce sont pas encore là-dedans.
Ouais, c'est ça. Tu sais, la chance que j'ai, c'est qu'il y en a un qui ressemble beaucoup à sa mère et l'autre qui ressemble beaucoup au laitier.
Oh! Fait que t'en as un qui a été sérieux dans la question puis un qui est un peu plus cabochon.
Donc, mon plus vieux a dit « Oui, c'est d'être assez bon en anglais pour rentrer en anglais enrichi l'an prochain. » Et mon plus jeune a dit, ça c'est lui qui ressemble au laitier, là, me faire pousser encore les cheveux plus longs.
Ah, des gros objectifs!
Ouais.
OK, lui, c'était pas relié au scolaire, là.
C'est ça. Mais tu vois clairement que cet enfant-là me ressemble pas.
Fait c'est vraiment drôle. Ouais,
leur mère est un peu découragée, mais c'était beau de voir tous les enfants qui rentraient à l'école. La plus petite chez nous à la maison, la préfab, rentrait ce matin.
OK.
Fait que là, elle s'est faite ses petites affaires en dessous des yeux pour pas avoir des cernes.
Oh mon Dieu, OK, elle a mis son cache-cerne à ses maquillés et tout. À quel âge?
Elle s'est maquillée. Elle est pas vieille, elle a 11 ans.
Oh, ça commence.
Je sais pas si elle s'est maquillée, mais là, je sais qu'elle s'est mis comme du cache-cerne en dessous des yeux.
Oui,
elle
n'a
pas. Ouais, ça n'existe pas. Elle a pas. Elle a 11 ans.
Mais c'est populaire, ces internets.
Ouais, c'est ça qu'elle a dit à sa mère. Achète-moi ça, c'était à la mode, maman.
Oui, c'est le pire, c'est que ça... tu le vois pas à cet âge-là. Si t'as la bonne couleur, tu le vois pas parce que tu l'as dit, elle n'a pas de cerne.
C'est ça, elle n'a pas.
On va faire un saut dans vingtaine.
Tu sais, dans mon rôle de beau-père plate, je dis tu veux pas de cerne? Non. Je vais dormir.
Ouais, c'est ça. Couche-toi pas tard. Arrête de regarder ton sel. Tu vas voir, ça va bien aller.
Hey, gros beau-père épais.
Ah, mais non, mais ça fait partie de la game, tu sais. Puis, tu dis qu'elle a 11 ans, fait qu'elle va rentrer au secondaire l'année prochaine.
Ouais.
Mais attends, l'année prochaine.
Ça va être encore plus.
Mais c'est parce que là, l'année prochaine, elle va vouloir être une grande. Tu comprends? Mais pour vrai, parce que là, elle change de palier, elle ferme un livre, elle a terminé le primaire.
C'est weird, parce que mes gars, je les ai toujours connus, c'est mes enfants. Les préfables, moi, je les ai connus il y a de ça 3 ans et demi.
J'adore que tu les appelles les préfables.
C'était des petits gars manqués. C'était vraiment des petits gars manqués. Puis j'ai vu leur évolution, tu sais, devenir de plus en plus féminine.
Oui, de tomboy à...
Tu sais, puis là, je veux dire, Mandy, elle prend la salle de bain pendant 3 heures en bas.
3 heures?
Oui. Puis là, j'ai vu qu'elle écoutait, parce que là, un moment donné, il fallait que j'avais besoin de la laveuse sécheuse. Puis là, j'ai vu qu'elle écoutait ses séries Netflix.
Oui.
Avec son portable.
Absolument.
Dans l'évier, pendant qu'elle se maquillait dans son miroir.
Oui.
Puis quand elle est sortie de la salle de bain, elle n'était pas maquillée.
Elle n'était pas prête encore.
Mais 3 heures.
Oui. Mais je comprends. Dis-toi que ces moments-là, Yann, c'est parce que c'est des moments entre nous et nous. C'est des moments personnels où on peut faire tout ce qu'on a à faire dans la salle de bain sous prétexte que...
Encore une chance, j'ai 3 salles de bain chez nous.
T'es très chanceux. Parce qu'il y a bien des endroits où c'est pas la même game, là. Nous autres, on s'ostinait, là. Mon petit frère, il a voulu la salle de bain,
mais j'étais
pas prête. Absolument.
Tu boirais pas.
Ben oui. Hey, j'avais besoin de mon petit moment privé. Puis
ton père, il faisait quoi? Il m'a allé chier au dimanche
matin. J'étais vraiment chanceuse parce que mon père, avec son horaire, partait à 4 heures le matin. Là. Fait qu'il n'était pas dans nos pattes quand on se préparait le matin, absolument. Là. Mais c'est nécessaire. Laisse-y ça, le besoin de ça. C'est son environnement pour se sentir belle, sentir qu'elle se prépare. C'est bon pour tout. Là.
Bon, dimanche, quand elle se préparait pour aller travailler, là, j'ai failli former le breaker de la maison.
T'aurais dû. Ah, oh, tabarnouche, on manque de courant. C'est-tu plate?
C'est-tu plate? Faut que j'aille faire caca.
Oh, Lynn, c'est tellement poche.
Dégage. Hey, les initiés. C'est-tu cette année, les initiations? T'as-tu déjà fait ça, toi?
Mon Dieu, il y en a tous les ans, des initiations. Ben oui, j'ai déjà fait ça. J'ai été solidement initiée, même, m'a dire. Moi, j'ai été dans la dernière vague, puis je vais parler pour le programme d'études où on était, parce que nous, en arts et technologies des médias, Jonquière, les initiations étaient quand même assez intenses, moi, t'avoue, là. Puis j'ai été dans la dernière vague où on avait le droit, mettons, des beurrés sur le terrain de l'école, puis de faire une coupe de niaiserie. Parce qu'après ça, c'est devenu pas mal plus compliqué. T'sais, j'ai fait partie, moi, des comités d'organisation de ces initiations-là dans les dernières années où j'ai été aux études au Cégep. Puis on avait des contraintes. Là. C'était pas mal plus... l'école voulait pas nécessairement être responsable sur le terrain. C'était trop de gestion, c'était trop intense. Fait qu'on a dû cesser d'utiliser le terrain scolaire. Puis après ça, il faut que tu collabores. Non, mais au-delà de ça, il faut que tu collabores avec la ville, avec les policiers, s'assurer que comme tout est en règle. Nous, c'est des immenses initiations, mais dépendamment du programme où t'es.
Ouais.
Tu sais que aussi les activités sont approuvées, que les élèves sont au courant, pas surprendre personne. Mais oui, moi, je suis de celle, puis je sais
on
que c'est bien controversé.
Les jeunes s'amuser.
Ben, moi, exact. Moi, je suis de celle qui pense que les initiations, ça a lieu d'être. Mm. Mais il faut que ça soit des activités d'intégration.
Tant qu'il n'y a pas de violence, pas tant qu'il n'y a pas d'agression sexuelle, tant qu'il n'y a pas d'animaux,
exactement.
Allez-y. En cas de doute, le gaz au bout.
Voilà.
C'est de même qu'on est.
Ah, c'est la fin.
Oui, oui.
Ben, on se retrouve demain, la gang.
Tant qu'il y aura de l'amour.
Ben oui, c'est important, ça, l'amour.
Non, c'est juste le nom de la chanson.
Non, c'est... Yann, profite du lien.
Les Cowboys fringants.
Je
sur les ondes de boulevard. Pardon?
À demain!
Le son est trop fort, j'ai rien entendu.
Salut!
Salut!